7, de la religion. Chapitre 7, 2. Essai sur les limites de l'action de l'État. Par Wilhelm von Humboldt, 1767-1835. Traduit de l'allemand, par Henri Chrétien, en 1867. Outre l'éducation proprement dite de la jeunesse, il est encore un autre moyen d'agir sur le caractère et les mœurs de la nation. En usant de ce moyen, l'État fait l'éducation, pour ainsi dire, de l'homme parvenu à l'âge adulte et à sa maturité. Il l'accompagne durant sa vie entière dans sa manière d'agir et sa façon de penser, auquel il cherche à imprimer telle ou telle marche, ou, du moins, à lui épargner tels ou tels égarements. Je veux parler de la religion. L'histoire nous fait voir que tous les États se sont servis de ce moyen, quoique pour arriver à des fins, et dans des mesures très différentes. Chez les anciens, la religion était le plus intimement liée à la constitution de l'État. C'était l'un de ses appuis politiques, et l'un de ses ressorts, et par conséquent, toutes les observations que j'ai faites précédemment sur les institutions antiques sont applicables ici. Lorsque la religion chrétienne, à la place des anciennes divinités particulières à chaque nation, vint enseigner l'existence d'une divinité universelle et commune à tous les hommes, on vit s'écrouler une des plus funestes murailles qui séparait les unes des autres les diverses races humaines. Elle posa ainsi la vraie base de toute vraie vertu, de tout vrai progrès, de toute vraie union dans l'humanité, bien sans lesquelles la civilisation, la lumière, le savoir et les sciences mêmes seraient demeurés encore bien plus longtemps, sinon toujours, le partage exclusif et rare d'un petit nombre d'hommes. À ce moment, le lien entre la constitution de l'État et la religion s'est relâché. Mais plus tard, lorsque l'irruption des peuples barbares vint chasser la civilisation, lorsque cette religion, mal comprise, fit naître un aveugle et intolérant prosélytisme, et lorsque la forme politique des États fut modifiée de telle sorte qu'on ne trouva plus, au lieu de citoyens, que des sujets, non seulement de l'État, mais aussi du prince, celui-ci s'appliquait scrupuleusement au maintien et à la propagation de la religion, s'imaginant que son soin lui était confié par Dieu même. Dans les temps modernes, il est vrai, ce préjugé est devenu plus rare. Mais le souci de la sûreté intérieure et de la moralité, en tant que meilleure garantie de la première réclame, avec tout autant d'urgence l'encouragement de la religion à travers des lois et des institutions de l'État. Je crois qu'on peut présenter ainsi à grands traits les principales époques de l'histoire religieuse des États. Je ne veux pas nier cependant que partout toutes les considérations que j'ai rapportées, et surtout la dernière, aient pu exercer concurremment leur influence, quoique l'une d'elles ait dominé. Dans les efforts pour agir sur les mœurs au moyen des idées religieuses, il faut distinguer la protection donnée à une religion déterminée de la protection donnée aux sentiments religieux en général. La première est, sans aucun doute, plus oppressive et plus pernicieuse que la seconde. Mais de façon générale, la seconde n'est pas facile à réaliser sans la première. En effet, du moment que l'État considère la moralité et la religiosité comme inséparables et qu'il tient, pour légitime, et permis de s'en servir, il est à peine possible, étant donné l'aptitude inégale des diverses opinions religieuses pour la moralité reposant sur des idées vraies ou convenues, qu'il ne prenne pas l'une d'elles sous sa protection de préférence aux autres. Même s'il se garde entièrement d'agir ainsi, s'il joue le rôle du protecteur et défenseur de tous les partis religieux, comme il ne peut juger que sur des actes extérieurs, il est quand même obligé de favoriser les opinions de ses partis, en opprimant toutes les éventuelles opinions dissidentes des individus. Et, dans tous les cas, il s'intéresse à une opinion particulière au moins, dans ce sens qu'il cherche à faire dominer en général la croyance en Dieu, comme croyance agissant sur notre vie. Il s'ajoute encore à tout cela, avec l'équivoque de toutes les expressions, avec la foule des idées, qui, trop souvent, sont comprises dans un seul mot, que l'État devrait nécessairement donner à la notion du sentiment religieux une signification déterminée, du moment qu'il voudrait s'en servir comme d'une règle de conduite. Selon moi donc, il ne peut exister strictement aucune immixtion de l'État dans les matières religieuses, qui ne se rendrait coupable de favoriser plus ou moins certaines opinions déterminées, et qui ne soulèverait contre elles les objections que l'on oppose à une semblable protection. Je considère également qu'il ne peut exister aucun mode de cette immixtion, qui n'entraîne pas au moins une certaine direction, une inhibition de la liberté des individus. En effet, la contrainte, proprement dite, la simple exhortation, la mise à disposition des occasions, qui permettent de s'occuper plus facilement des idées religieuses, ont une influence naturellement très diverse. Mais même dans ce dernier cas, comme on s'est efforcé précédemment de le démontrer avec plus de détails, à propos de plusieurs institutions semblables, il existe toujours une certaine prépondérance du point de vue de l'État, qui amoindrit la liberté. J'ai cru devoir présenter d'avance ces observations pour aller au-devant du reproche qu'on pourrait faire à l'étude, qui va suivre, de ne pas s'occuper du soin pour l'encouragement de la religion en général, mais seulement de ses diverses branches séparées, et pour ne pas avoir besoin de trop l'amorceler par un examen anxieux des divers cas qui peuvent se présenter. Je veux parler ici de la religion en tant qu'elle se relie à la moralité et à la félicité, et que, par suite, elle s'est transformée en un sentiment. Je n'en parle ni en tant que la raison reconnaît ou croit reconnaître une vérité religieuse, car la perception de la vérité est indépendante de toutes les influences de la volonté ou du désir. Ni en tant que la révélation affirme une religion, car il ne faut pas que la foi historique soit assujettie à ces influences. Cela bien entendu, je postule que toute religion repose sur un besoin de l'âme. Nous espérons, nous pressentons par ce que nous désirons. Là où toute trace de culture intellectuelle fait entièrement défaut, le besoin lui-même vient aussi uniquement de l'instinct. La crainte et l'espérance face aux phénomènes naturels, que l'imagination transforme en être conscient et actif, composent la quintessence de toute la religion. Quand la culture intellectuelle commence à naître, cela ne suffit plus. L'âme se languit du spectacle d'une perfection, dont une étincelle brille en elle, mais dont elle pressent en dehors d'elle une mesure bien supérieure. Cette contemplation devient de l'admiration. Et quand l'homme s'imagine en rapport avec l'être parfait, elle devient de l'amour, d'où naît le désir de se faire semblable et de s'unir à lui. Cela se rencontre également chez les peuples qui n'en sont encore qu'au premier niveau de la civilisation. Car c'est là l'origine du fait que, même chez les nations les plus barbares, les personnages principaux s'imaginent descendre des dieux et croient qu'ils retourneront parmi eux. L'idée de la divinité varie seulement en fonction de l'idée de la perfection qui domine à chaque époque et dans chaque peuple. Les dieux des anciens Grecs et des anciens Romains, comme ceux de nos premiers ancêtres, n'étaient que des idéalisations de la puissance et de la force corporelle. Quand l'idée du bon matériel est née, et s'est raffinée, on a élevé la beauté matérielle, personnifiée sur le trône de la divinité, et ainsi, l'on a vu surgir cette religion, qu'on pourrait appeler la religion de l'art. Quand l'homme est monté de la matière à l'esprit pur, du bon au bien et au vrai, l'idée même de toute perfection, intellectuelle et morale, est devenue l'objet de l'adoration. Et la religion a commencé d'appartenir à la philosophie. Peut-être pourrait-on se servir de cette balance pour peser et comparer la valeur des différentes religions, si les religions variaient selon les nations et les sectes, mais point suivant les individus séparés. Mais ainsi, la religion est entièrement subjective, elle repose exclusivement sur la capacité d'imagination personnelle de chaque homme. Quand l'idée de la divinité est le fruit d'une vraie culture intellectuelle, elle réagit sur la perfection intérieure d'une manière belle et bienfaisante. Toutes les choses nous apparaissent sous une forme différente, suivant que nous les considérons comme les créations d'une intention prévoyante, ou comme le produit du hasard privé de raison. les idées de sagesse, d'ordre, d'intention, qui nous sont si nécessaires pour nos actions, et même pour le progrès de nos facultés intellectuelles, prennent des racines bien plus profondes dans notre âme, quand nous les apercevons partout autour de nous. Le fini devient pour ainsi dire infini, ce qui est fragile devient solide, ce qui est changeant devient constant, ce qui est compliqué devient simple, quand notre esprit place une cause ordonnatrice au sommet des choses, et attribue une durée sans terme aux substances intellectuelles. Nos efforts pour trouver la vérité, pour arriver à la perfection, gagnent en énergie et en sûreté quand il existe pour nous un être, qui est la source de toute vérité, le foyer de toute perfection. Les adversités du destin deviennent moins dures à l'âme, car la confiance et l'espoir se relient à elle. Le sentiment que tout ce que nous avons, nous le recevons de la main de l'amour suprême, élève en même temps notre félicité et notre bonté morale. La reconnaissance pour le bonheur dont elle jouit, et la confiance en celui dont elle se languit, permettent à l'âme de s'extravertir, elle cesse d'être renfermée en elle-même, et de couver toujours ses propres sentiments, projets, craintes, espérances. Si elle manque le sentiment sublime de se devoir tout à elle seule, elle sent avec délice qu'elle vit dans l'amour d'un autre être, et, dans ce sentiment, sa propre perfection s'unit avec la perfection de cet être. Elle est ainsi disposée à devenir pour les autres ce que les autres sont pour elle. Elle ne veut pas que d'autres doivent tout tirer d'eux-mêmes, ni qu'elle ne reçoive rien des autres. Dans cette revue rapide, je n'ai fait qu'effleurer les éléments principaux. Après l'étude magistrale de Garve, pénétrer plus avant dans ce sujet serait inutile et prétentieux. Mais autant il est vrai, d'un côté, que les idées religieuses concourent à la perfection morale, autant d'un autre côté il est faux qu'elles soient liées à elles indissolublement. La seule idée de la perfection spirituelle est assez grande, assez ample, assez sublime pour n'avoir pas besoin d'une enveloppe ou d'une forme étrangère. Et cependant, il y a au fond de toute religion une personnification, une sorte de matérialisation, un anthropomorphisme plus ou moins accusé. Cette idée de la perfection sera toujours présente même à l'esprit de celui qui n'est pas habitué à condenser la somme de tout le bien moral dans un être idéal, et à se considérer comme en rapport avec cet être. Elle lui sera une excitation à l'activité, élément de tout bonheur. Fermement convaincu par l'expérience que son esprit est capable de progresser dans une énergie morale plus élevée, il avancera avec courage vers le but qu'il se propose. La pensée de l'anéantissement de son existence ne l'effrayera pas, pourvu que son imagination trompeuse ne vienne pas à sentir le néant dans le néant. Sa dépendance inaltérable de destinées extérieures ne l'impressionnera pas. Indifférent à la jouissance ou à la privation, il ne verra plus que ce qui est purement intellectuel et moral, et le sort, quel qu'il soit, ne pourra rien sur son âme même. Son esprit se suffisant à lui-même se sentira indépendant. La plénitude de ses idées et la conscience de sa force intérieure l'élèveront au-dessus du changement des choses. Quand il fera retour sur son passé, quand il recherchera pas à pas comment, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il aura utilisé chaque événement. Comment peu à peu il est devenu ce qu'il est maintenant. Quand il verra ainsi tout réuni en lui, la cause et l'effet, le but et le moyen, et quand ensuite, plein du plus noble orgueil que puissent ressentir les êtres éphémères, il s'écriera « N'as-tu pas accompli tout toi-même, cœur brûlant d'une flamme sacrée 18 ?» Lefkurli braquette point 18 Goethe, Prométhée. Comment alors doivent s'éteindre dans l'homme toutes les idées d'isolement, d'abandon, de manque de protection, de consolation et d'appui, que l'on suppose souvent là où est absente l'idée d'une cause personnelle, organisatrice, prévoyante, de l'enchaînement des choses finies? Ce sentiment de sa valeur propre, de son existence en soi et par soi ne le rendra pas dur et insensible envers les autres êtres. Et il ne rendra pas son cœur inaccessible à l'amour compatissant et à tout mouvement bienveillant. justement cette idée de la perfection, qui, certes, n'est pas seulement une froide perception de la raison, mais qui peut être aussi un chaud sentiment du cœur. Cette idée, à laquelle se rattache toute l'activité de l'homme, fait pénétrer son existence à lui, dans l'existence de ses semblables. Car il existe en eux une aptitude semblable à une plus grande perfection, et l'homme peut produire et augmenter cette perfection. Il n'est pas encore pénétré du plus haut idéal, de la moralité, tant qu'il peut se considérer comme séparé des autres hommes, tant que tous les êtres intellectuels ne se confondent pas dans son esprit avec la somme de toute la perfection qui se trouve disséminée en eux. Peut-être son union avec le reste des êtres semblables à lui deviendra-t-elle encore plus profonde, sa compassion pour leur sort plus vive, à mesure que son esprit verra plus clairement que leur sort et le sien dépendent seulement de lui et d'eux. Il se peut faire que l'on reproche, et avec raison, à ce tableau d'exiger pour rester vrai une force d'esprit et de caractère, non pas seulement ordinaire, mais tout à fait exceptionnelle. Toutefois, il ne faut pas oublier que tout ceci a lieu également là, où les sentiments religieux doivent produire une existence vraiment belle, également éloignée de la froideur et du fanatisme. Ce reproche serait en outre seulement fondé si j'avais recommandé que l'on dût encourager la disposition générale que je viens de dépeindre. Mais mon dessein tend exclusivement à montrer que la moralité, même pour la logique humaine la plus sévère, n'est point du tout dépendante de la religion. Qu'en général, la moralité n'est pas liée nécessairement à la religion. Mon désir est de contribuer pour ma part à écarter, ne serait-ce que la moindre ombre d'intolérance, et d'encourager ce respect dont l'homme devrait être toujours rempli pour la manière de penser et de sentir des autres hommes. Afin de justifier mieux encore cette doctrine, je pourrais maintenant présenter, comme contraste, la peinture de l'influence mauvaise dont est susceptible la disposition la plus religieuse, tout comme celle qui l'est le moins. Mais il serait haineux de s'arrêter longtemps devant des tableaux aussi odieux. Et d'ailleurs l'histoire est là pour établir suffisamment la vérité de mon dire. Peut-être aussi arrivera-t-on à une plus complète évidence en jetant un regard rapide sur la nature de la moralité elle-même, et sur le lien étroit qui existe non seulement entre la religiosité, mais encore entre les systèmes religieux des hommes et leur manière de sentir. Ni ce que la morale prescrit comme devoir, ni ce qui donne à ces lois leurs sanctions et les fait accepter par intérêt ne dépend des idées religieuses. Je ne vais pas jusqu'à dire qu'une dépendance de cette nature corromprait la pureté de la volonté morale. Peut-être pourrait-on soutenir que ce principe n'a pas une valeur suffisante dans une déduction qui, comme celle-ci, est tirée des faits et en même temps s'applique aux faits. Mais les qualités essentielles d'une action qui font d'elle un devoir, naissant partie de la nature de l'âme humaine, en partie de l'application plus directe d'une règle morale au rapport des hommes les uns envers les autres. Et en supposant certain que les hommes soient saisis par le sentiment religieux plus vivement que par tout autre, il n'est pas moins vrai que ce moyen n'est pas le seul, et surtout qu'il n'est point applicable à tous les caractères. Il est bien plus vrai de dire que l'influence de la religion repose strictement sur les sens individuels des hommes. Elle est subjective dans le sens le plus strict du mot. L'homme froid, purement raisonneur, chez qui la connaissance des choses ne se transforme jamais en sentiment, auquel il suffit de voir le rapport des choses et des actions pour déterminer sa volonté, n'a besoin d'aucun principe religieux pour agir vertueusement et pour être vertueux autant que cela est possible à son caractère. H en est tout autrement au contraire, quand la faculté sensible est très forte, quand chaque pensée devient aisément un sentiment. Mais, dans ce cas même, les nuances sont infiniment diverses. Là où l'âme a une forte tendance à sortir d'elle-même, pour pénétrer en autrui, à se joindre à autrui, les idées religieuses seront des ressorts efficaces. Mais par contre, il existe des caractères en qui domine une concordance étroite entre les idées et les sensations, qui possèdent une si grande profondeur de savoir et de sentiment, qu'il en résulte une force et une indépendance qui n'exige d'un être, ni lui permet de se livrer entièrement à un autre être, et de se fier à une force étrangère. Choses par lesquelles s'exprime si fort l'influence de la religion. Les situations mêmes, qui sont nécessaires pour faire revenir l'homme aux idées religieuses, ont une diversité semblable à la diversité des caractères. Pour cela, il suffit chez l'un de n'importe quelle émotion forte, de joie ou de douleur, chez l'autre du suave sentiment de la reconnaissance, naissant de la jouissance. Ces derniers caractères peut-être ne sont pas ceux qu'il faut priser le moins. D'un côté, ils sont assez forts pour ne pas chercher dans le malheur des secours étrangers, et, d'un autre côté, ils sont trop sensibles pour le sentiment d'être aimé, pour ne pas rattacher aisément à l'idée du bonheur, l'idée d'un dispensateur plein d'amour. Souvent aussi, le désir ardent des idées religieuses a encore une source plus noble, plus pure, et, si je puis ainsi parler, plus intellectuelle. L'homme ne peut saisir ce qu'il voit autour de lui qu'au moyen de ses organes. Nulle part, la pure essence des choses ne se révèle immédiatement à lui. C'est précisément ce qui excite davantage son amour, ce qui saisit le plus irrésistiblement tout son être, qui est enveloppé d'un voile épais. Toute sa vie durant ses activités, s'efforce de pénétrer ce voile. Ses délices sont dans la divination de la vérité à travers l'énigme du signe, dans l'espoir d'une intuition immédiate, dans d'autres périodes de son existence. Quand, au milieu d'une merveilleuse et belle harmonie, l'esprit cherche sans relâche la vue immédiate de l'être véritable, quand le cœur l'appelle avec ardeur, quand l'insuffisance de l'idée n'est pas à la hauteur de la profondeur de l'intelligence, et quand la silhouette des sens et de l'imagination ne suffisent pas à la chaleur du sentiment, alors la foi suit irrésistiblement la vraie tendance qu'a la raison d'élargir chaque idée, jusqu'au renversement de toute limite, jusqu'à l'idéal. Elle s'attache étroitement à un être qui comprend tous les autres êtres, et qui existe, apparaît, crée, de façon pure, et sans moyens intermédiaires. Mais, souvent, une timidité modeste limite la foi dans le domaine de l'expérience. Souvent le sentiment se contente volontiers de l'idéal purement rationnel. Mais il trouve un charme mille fois plus doux, enfermé qu'il est dans le monde. Accessible à ses impressions, à combiner étroitement la nature matérielle et la nature immatérielle, à donner au signe un sens plus fécond, à la vérité un signe plus clair et plus fertile en idées. Ainsi l'homme est souvent dédommagé de l'absence de cet enthousiasme enivrant, fil de l'attente dans l'espoir, quand il défend à ses regards de vagabonder dans les espaces infinis, par la conscience du succès de ses efforts qui l'accompagnent sans cesse. Sa marche est moins hardie, mais plus sûre. Comme il s'attache au bon sens, ses idées sont moins riches, mais plus claires. La perception par les sens est moins fidèle, peut-être à la réalité, mais plus apte, pour lui, à être relié à l'expérience. L'esprit de l'homme n'admire rien aussi volontiers, et avec plus d'adhésion de son sentiment, que l'ordre plein de sagesse régnant dans une foule innombrable d'individus divers, et peut-être en antagonisme les uns vis-à-vis des autres. Toutefois, cette admiration est, à un bien plus haut degré, le propre de certains hommes, et ceux-ci adoptent, de préférence à tout, l'idée d'un être qui a créé et ordonné le monde, et qui le conserve avec une sagesse pleine de sollicitude. À d'autres, c'est la force de l'individu qui paraît par-dessus tout sacré. Elle les captive plus que l'ordonnance générale des choses. Aussi est-ce, si j'ose ainsi dire, la route opposée qui se présente à eux, plus souvent et plus naturellement. Cette route par laquelle les individus, tout en développant en eux-mêmes leur moi, et en le modifiant par les influences réciproques, arrivent à cette harmonie qui seule peut donner le repos à l'esprit, comme au cœur de l'homme. Je suis loin de me faire illusion, en croyant avoir épuisé dans une courte esquisse cette matière complexe, dont la richesse s'oppose à toute classification. Je l'ai présentée, comme les exemples, pour faire voir que le vrai sentiment religieux, comme tout vrai système de religion, découle, dans le sens le plus élevé des mots, de sa connexité profonde avec la sensibilité de l'homme. Il est vrai, toutefois, que tout ce qui, parmi les idées religieuses, est purement intellectuel, telles les conceptions d'intentionnalité, d'ordre, de convenance, de perfection, est indépendant de la sensibilité et de la différence de caractère. Mais il n'est pas tant question ici de ces idées, considérées en elles-mêmes, que de leur influence sur les hommes, laquelle ne peut pas réclamer une indépendance semblable. Et elles ne sont d'ailleurs pas, à proprement parler, exclusivement propres à la religion. L'idée de perfection se puise tout d'abord dans la nature animée. Elle est ensuite appliquée à la nature inanimée. Puis elle est successivement libérée de toutes les limites jusqu'à l'être infiniment parfait. Cependant, la nature animée et la nature inanimée restent les mêmes. Ne serait-il donc pas possible de faire les premiers pas, puis de s'arrêter là sans faire le dernier? Si tout sentiment religieux repose en entier sur les diverses modifications du caractère, et surtout du sentiment, son influence sur la moralité ne peut nullement dépendre de la substance, pour ainsi parler, du contenu des principes admis, mais bien de la forme sous laquelle on les adopte, de la conviction, de la foi. J'espère que j'ai suffisamment justifié, dès maintenant, cette observation, qui me sera par la suite d'une grande utilité. Ce que je dois encore craindre ici, peut-être, c'est le reproche d'avoir toujours eu devant les yeux l'homme très favorisé de la nature, et des circonstances, intéressant, et par suite rare. Mais la suite montrera, je l'espère, que je ne néglige pas le grand nombre. Il me paraît honteux de ne pas se placer des points de vue les plus élevés toutes les fois que c'est l'homme qui forme l'objet de l'étude à laquelle on se livre. Après avoir jeté ce coup d'œil général sur la religion et son influence sur la vie, je reviens à la question de savoir si l'État doit ou ne doit pas agir par la religion sur les mœurs des citoyens. Il est alors bien évident que les moyens employés par le législateur pour le développement du progrès moral ont toujours une utilité et une convenance proportionnée au degré dans lequel elles favorisent le développement intérieur des facultés et des penchants. Car tout progrès a sa source uniquement dans le fond de l'âme. Les mesures extérieures peuvent bien lui donner l'occasion de se montrer, elles ne peuvent jamais la créer. Maintenant, que la religion, qui repose entièrement sur des idées, des sensations et sur la conviction intérieure, soit un de ses moyens, cela est incontestable. Nous formons l'artiste en entraînant ses yeux sur les chefs-d'œuvre de l'art et en nourrissant son imagination avec les formes admirables des créations de l'Antiquité. De même, l'homme moral doit être formé par la contemplation d'une perfection morale supérieure, par les rapports avec ses semblables, par l'étude intelligente de l'histoire, enfin, par le spectacle de la perfection la plus complète, de la perfection idéale, dans l'image de la divinité. Mais, ainsi que je crois l'avoir démontré plus haut, ce spectacle n'est pas fait pour tous les yeux, ou, pour parler sans figure, cette manière de penser n'est pas adaptée à tous les caractères. Même si elle l'était, elle ne serait efficace que là où elle naît de l'union de toutes les idées et de toutes les sensations, où elle se produit d'elle-même dans le fond de l'âme, plutôt que d'y être mise du dehors. Enlever les obstacles qui arrêtent la confiance aux idées religieuses, favoriser le libre esprit d'examen, ce sont là donc les seuls moyens dont le législateur a le droit de se servir. S'il va plus loin, s'il cherche à promouvoir directement le sentiment religieux, ou à le diriger, s'il prend même, en quoi que ce soit sous sa protection certaines idées déterminées, au lieu de la vraie conviction, s'il réclame, au lieu de la vraie conviction, la foi basée sur l'autorité. Alors, il arrête l'essor de l'esprit, et le développement des facultés de l'âme. Peut-être qu'il peut ainsi produire, en se saisissant de l'imagination, en provoquant des émotions momentanée, une manière d'agir, conforme aux lois, mais jamais la vraie vertu. Car la vraie vertu est indépendante de toute religion, et incompatible avec une religion imposée et basée sur l'autorité. Mais si certains principes religieux produisent une manière d'agir seulement conforme à la loi, N'est-ce pas assez pour autoriser l'État à les propager, même au détriment de la liberté générale de penser? Le but de l'État sera atteint si ces lois sont observées strictement. Et le législateur a suffisamment fait son devoir s'il a édicté des lois sages et s'il s'est conservé pour elles l'obéissance de ses concitoyens. D'ailleurs, l'idée de la vertu, telle qu'on l'a exposée, n'est le partage que du petit nombre des membres d'un État, de ceux qui, par leur situation, sont en mesure de consacrer une grande partie de leur temps et de leur faculté à l'affaire, de leur développement intérieur. Le soin de l'État devra forcément s'exercer sur le grand nombre, et la foule est incapable de ce haut degré de moralité. Je ne reviens pas ici sur les propositions que j'ai essayé de développer au commencement de cet écrit. Elles abattent par le pied ces objections. Elles affirment que l'organisation de l'État n'est pas elle-même le but, mais seulement un moyen pour le progrès de l'homme, et que, par suite, il ne peut suffire au législateur de donner de l'autorité à ses décisions. Il faut encore que les moyens employés pour établir cette autorité soient bons, ou du moins qu'ils ne soient pas en eux-mêmes mauvais. De plus, il n'est pas juste que l'État n'ait à considérer que les actions des citoyens et leur conformité à la loi. Un État est une machine tellement complexe et compliquée que les lois, qui doivent toujours et nécessairement être simples, générales et peu nombreuses, n'y peuvent jamais suffire. La plus grande part à faire reste confiée aux efforts volontaires et unanimes des citoyens. Il faut seulement comparer le bien-être des nations civilisées et éclairées avec la misère des peuples barbares et sauvages pour être convaincu de la vérité de cette proposition. Aussi, le travail de tous, ceux qui se sont occupés des institutions étatiques, a-t-il toujours tendu à faire le bien de l'État dans l'intérêt propre du citoyen et à changer l'État en une machine qui est maintenue en mouvement par la force intérieure de ses ressorts et qui n'a pas un besoin absolu de nouvelles influences venant du dehors. S'il est un avantage dont les États modernes puissent se vanter vis-à-vis des anciens, c'est surtout de ce qu'ils ont plus que réalisé ce principe. Il y a même une preuve de ceci en ce fait qu'ils se servent de la religion comme d'un moyen de progrès. Et pourtant, à supposer, précisément comme nous le faisons, que la religion seule puisse produire de bonnes actions au moyen de certains principes déterminés, ou agir sur les mœurs en général au moyen d'une direction positive, c'est un moyen d'action dont le point d'appui est extérieur. Pour cette raison, le vœu suprême du législateur doit être toujours d'élever la culture des citoyens assez haut pour qu'ils puisent la force d'atteindre le but de l'État dans la seule idée de l'avantage que celui-ci leur garantit pour la réalisation de leurs intentions individuelles. Mais le législateur ne saurait accomplir ce vœu nécessaire qu'en laissant aux citoyens la plus grande liberté. C'est ce que la connaissance de l'homme lui apprendra bientôt. D'ailleurs, pour comprendre ces choses, il faut chez eux un degré de culture et d'intelligence qui ne peut pas naître là, où la liberté de l'esprit d'examen est entravée par les lois. Si on n'accorde aucune créance à ces considérations, c'est uniquement parce qu'on reste convaincu que, sauf sous l'effet de dogmes religieux délimités et acceptés par la foi, ou du moins sans la surveillance de l'État sur la religion, le calme et la moralité, sans lesquels le pouvoir civil serait impuissant à maintenir l'observation des lois, ne peuvent exister. Toutefois, il faudrait prouver et établir avec plus d'exactitude et de rigueur l'influence que l'on attribue aux dogmes religieux ainsi acceptés et en général à toute espèce de religiosité protégée par les institutions de l'État. Dans les parties incultes du peuple, de toutes les vérités religieuses, celles sur lesquelles on compte le plus sont les idées de peine et de récompense à venir. Celles-ci ne diminuent point la tendance aux actes mauvais, elles ne favorisent pas le penchant au bien, elles n'améliorent donc pas le caractère, elles agissent uniquement sur l'imagination. Elles ont, par suite, comme tout ce qui vient de cette faculté, une influence sur la manière d'agir. Mais aussi leur influence est diminuée et anéantie par tout ce qui vient affaiblir la vivacité de l'imagination. Ajoutez à cela que l'attente est si longue, et, dans l'esprit même des croyants les plus convaincus, si incertaine que les idées de repentir prochain, d'amendement à venir, de pardon espéré, qui sont en favorisés par certaines idées religieuses, leur enlèvent de nouveau une grande partie de leur efficacité. De telle sorte qu'il est impossible de concevoir comment ces idées pourraient avoir plus d'influence que l'idée des pénalités légales, qui, elles, ne sont pas éloignées, et, avec de bonnes institutions de police, sont presque certaines, et qui ne sont écartées, ni par le repentir, ni par l'amendement survenu depuis la faute, pourvu qu'on ait enseigné, dès l'enfance, aux citoyens, toutes ces conséquences des actes moraux et des actes immoraux. Il est incontestable que des idées religieuses encore moins éclairées ont une influence plus noble sur une grande partie du peuple. La pensée qu'on est l'objet des soins d'un être infiniment sage et parfait confère à ceux qui la nourrissent plus de dignité. La perspective d'une existence éternelle élève leur point de vue, elle donne à leurs actes plus d'intentionnalité et de cohérence. Le sentiment de la bonté pleine d'amour de la divinité donne à leur âme une disposition semblable. En un mot, la religion leur enseigne à sentir la beauté de la vertu. Mais pour que la religion puisse avoir une pareille influence, il faut déjà qu'elle soit en harmonie parfaite avec les idées et les sentiments. Or, cela est bien difficile quand la liberté de l'esprit d'examen est entravée et quand tout est ramené à la foi. Il faut aussi que l'intelligence des beaux sentiments existe d'avance. La religion n'est ainsi surtout d'une tendance non encore pleinement développée vers la moralité, sur laquelle elle ne fait à son tour que réagir. Et d'ailleurs personne ne songe à nier absolument l'influence de la religion sur la moralité. Toute la question est seulement de savoir si elle dépend de certains dogmes religieux déterminés, et s'il faut considérer, par suite, que cette dépendance est tellement incontestable que la moralité et la religion sont unies l'une à l'autre d'une manière indivisible. Ces deux questions doivent, à mon avis, être résolues par la négative. La vertu concorde aussi bien avec les penchants originels de l'homme. Les sentiments d'amour, de conciliation, de justice, ont quelque chose de si doux, les idées d'activité désintéressée, de dévouement pour autrui, quelque chose de si émouvant. Les rapports qui en découlent dans la vie domestique et dans la vie sociale apportent tant de bonheur, qu'il est beaucoup moins nécessaire de chercher de nouveaux ressorts à produire des actions vertueuses, que de procurer, à ce qui se trouve naturellement dans le fond de l'âme, une action libre et sans entrave. Si l'on voulait aller plus loin, si l'on voulait ajouter de nouveaux moyens d'encouragement, encore faudrait-il ne jamais oublier de comparer leur utilité et leurs inconvénients. Or, on l'a déjà dit, et on le répète, il est inutile de démontrer plus amplement combien de maux entraînent la limitation de la liberté de penser. Ainsi, le commencement de ce chapitre contient tout ce que je juge nécessaire de dire sur le vice de tout encouragement positif du sentiment religieux par l'État. Si le mal qu'il produit ne s'étendait qu'au résultat de nos études, s'il ne faisait que rendre incomplètes ou fautives nos connaissances scientifiques, cela pourrait bien être de quelque poids dans l'appréciation qu'on ferait du caractère de futilité qu'on en attend. Mais l'inconvénient est bien plus considérable. L'utilité de la libre recherche s'étend à notre façon d'être tout entière, elle enveloppe non seulement notre pensée, mais encore nos actions. Chez l'homme habitué à juger et à entendre juger la vérité et l'erreur, sans tenir compte des conditions extérieures qui le touchent, lui et ses semblables, tout principe d'action se déduit de manière plus réfléchie, plus conséquente, il est puisé à une source plus élevée que chez l'homme, dont les études sont inlassablement dirigées par des circonstances non inhérentes à l'étude elle-même. La recherche et la conviction qui naît de la recherche, voilà l'activité spontanée. La foi, c'est la confiance en une force étrangère, en une perfection, intellectuelle ou morale, étrangère. De là vient que chez le penseur qui cherche, il y a plus d'activité spontanée, plus de fermeté. Chez le croyant plein de foi, plus de faiblesse, plus de passivité. Il est vrai que la foi Quand elle domine sans partage, quand elle chasse entièrement le doute, enfante un courage plus invincible, une force plus durable encore. L'histoire de tous les enthousiastes nous l'apprend. Seulement cette force-là n'est désirable que quand ce qui compte, c'est un résultat extérieur déterminé, pour lequel il n'est besoin que d'un acte purement mécanique. Elle ne l'est pas quand on attend des résolutions originales, ou des actes réfléchis basés sur les principes de la raison, ou quand on désire la perfection intérieure. Car cette force des enthousiastes a pour unique base l'anéantissement absolu de l'activité rationnelle propre. Les doutes ne sont pénibles qu'à celui qui croit, jamais à celui qui ne poursuit que sa propre recherche. Car en général, les résultats ont bien moins d'importance pour le second que pour le premier de ces deux hommes. Pendant sa recherche, celui-là a conscience de l'activité, de la force et de son âme. Il sent que sa vraie perfection, que son bonheur repose vraiment sur cette force. Les doutes, naissant sur les points qu'il a jusqu'alors tenus pour vrais, sont bien loin de l'affliger. Au contraire, cela le remplit de joie que de voir que sa pensée a tant gagné en vigueur, qu'il aperçoit maintenant des erreurs, qui lui avaient été cachées jusque-là. Or la foi ne peut s'intéresser qu'aux résultats. Pour elle, il n'y a rien de plus dans la vérité découverte. Les doutes semés par la raison affligent le croyant. Car ce ne sont pas, comme pour le cerveau qui pense par lui-même, de nouveaux moyens d'arriver à la vérité. Ils ne font que lui enlever la certitude, sans lui indiquer le moyen de la reconquérir d'une autre manière. En élargissant ces considérations, nous sommes conduits à observer qu'en général, il n'est pas bon d'attribuer aux résultats isolés une importance assez grande pour croire, ou que beaucoup d'autres vérités, ou que beaucoup de conséquences utiles, intérieures et extérieures, en dépendent. Cela entrave avec trop de facilité la marche de l'étude. C'est ainsi que les aperçus les plus libres et les plus lumineux travaillent parfois précisément contre le principe sans lequel ils n'auraient jamais pu se produire. Tant la liberté de penser est importante, tant toute limitation à cette liberté est pernicieuse. D'un autre côté, toutefois, l'État ne manque pas de moyens pour faire que les lois restent debout et pour empêcher des crimes. Que l'on tarisse autant que possible la source des actes immoraux qui se trouvent dans l'organisation même de l'État. Que l'on rende l'œil de la police plus perçant pour apercevoir les crimes commis. Qu'on les punisse comme il convient, et l'on ne manquera pas d'atteindre le but qu'on se propose. Et, oublie-t-on donc que la liberté de penser elle-même, est la lumière qui ne peut se répandre que sous ses auspices, est le plus efficace de tous les moyens de promouvoir la sûreté? Tandis que les autres moyens n'empêchent que les troubles et les explosions sociales, la liberté de penser agit, elle, sur les penchants et les opinions. Tandis qu'ils ne peuvent produire qu'une certaine concordance dans les actes extérieurs, elle produit l'harmonie intérieure de la volonté et de l'aspiration. Quand donc, cessera-t-on enfin de prêter aux conséquences extérieures des actions plus d'attention qu'à l'état intérieur de l'esprit, dont elles découlent? Quand donc naîtra cet homme qui sera, pour la législation, ce que Rousseau a été pour l'éducation, et qui échangera le point de vue des résultats extérieurs immatériels pour celui du développement intérieur de l'homme. Qu'on ne croit pas non plus que cette liberté de penser, que ces lumières ne soient que pour le petit nombre. Qu'elles restent inutiles, ou qu'elles deviennent même nuisibles à la plus grande partie du peuple, à celle dont l'activité est pourtant absorbée par le soin que réclament les besoins physiques de la vie. Et qu'on ne puisse agir sur elle qu'en propageant des dogmes arrêtés ou en limitant la liberté de penser. Il y a déjà quelque chose de dégradant pour l'humanité dans la pensée de refuser en quoi que ce soit à un homme le droit d'être un homme. Il n'en est pas d'assez barbare pour être incapable d'arriver à un niveau de culture plus élevé. Et, s'il était vrai que les idées religieuses et philosophiques les plus élevées ne peuvent pas être intégrées directement par le plus grand nombre des citoyens, S'il était vrai qu'il faut présenter la vérité sous un vêtement autre que celui que l'on choisirait normalement, afin d'épouser la forme des idées de cette classe d'hommes, s'il était vrai qu'il est nécessaire de parler plutôt à leur imagination et à leur cœur qu'à leur froide raison, toujours est-il que cet élargissement, que toutes les connaissances scientifiques doivent à la liberté et la lumière, descendrait jusqu'à cette classe d'hommes, comme les conséquences salutaires de l'étude libre, et, sans entrave sur l'esprit et le caractère de toute la nation, s'étendrait jusqu'aux plus humbles individualités qui en font partie. Ce raisonnement s'applique surtout au cas où l'État tente de propager certains dogmes religieux déterminés. Mais je veux le généraliser davantage. Pour ce faire, je dois rappeler le principe développé plus haut, à savoir que toute influence de la religion sur la moralité dépend, sinon exclusivement, bien plus de la forme sous laquelle la religion existe dans l'homme, pour ainsi dire, que du contenu des dogmes qui la lui rendent sacrée. Mais, ainsi que je me suis efforcé de l'établir plus haut, toute disposition de l'État n'agit que plus ou moins sur ce contenu, tandis que l'accès à cette forme, si je puis désormais me servir de cette expression, lui est presque entièrement fermé. Comment la religion naît-elle spontanément dans un homme? Comment la reçoit-il? Cela dépend entièrement de toute sa façon d'être, de penser, de sentir. En supposant que l'État fût en situation de la modeler et de lui donner une forme concordante à ses vues, et l'impossibilité de ceci est incontestable, j'aurais été bien malheureux dans la justification de toutes les idées exposées jusqu'ici, si je devais maintenant ressasser toutes les raisons qui défendent à l'État de se servir arbitrairement de l'homme pour l'accomplissement de ses desseins, sans tenir compte des fins individuelles de celui-ci. Qu'il n'existe ici aucune nécessité absolue de celle qui seule pourrait justifier une exception, c'est ce que prouve l'indépendance de la moralité et de la religion. Indépendance que j'ai essayé d'établir. Ces principes seront encore mieux mis en lumière quand je démontrerai, ce qui ne tardera pas, que le maintien de la sûreté intérieure dans un État n'exige nullement qu'on impose aux mœurs en général une direction déterminée. Mais s'il est quelque chose qui puisse préparer dans l'âme des citoyens un terrain fertile à la religion, si quelque chose peut donner à la religion déjà reçue et passée, dans le système intellectuel et sensible du peuple, une influence salutaire sur la moralité, c'est la liberté, laquelle, si peu que ce soit, souffre toujours du soin positif de l'État. En effet, plus l'homme se forme d'une manière variée et originale, plus ses sentiments s'élèvent, et plus aisément, il dirige son regard, hors du cercle étroit et changeant, qui l'entoure pour l'élever vers ce dont l'infini et l'unité renferment la cause de ses limites et de cette mutabilité, qu'il croit d'ailleurs trouver ou ne pas trouver un tel être. Plus l'homme est libre, plus il devient indépendant en lui-même, et plus sa bienveillance envers les autres grandit. Et rien ne conduit à la divinité autant que l'amour bienveillant. Et rien ne rend l'absence de divinité aussi peu nuisible à la moralité que l'originalité, la force qui se suffit à elle-même et se limite en elle-même. Enfin, plus le sentiment de la force est élevé chez l'homme, plus la manifestation en est libre, plus l'homme cherche un fil intérieur qui le conduise et le dirige. Il reste ainsi favorable à la morale que ce fil soit pour lui la vénération et l'amour de la divinité, ou la récompense tirée du sentiment de sa dignité propre. La différence que j'y aperçois est celle-ci. Le citoyen laissé entièrement à lui-même en matière religieuse intégrera, ou n'intégrera pas, dans son âme de sentiments religieux, suivant son caractère personnel. Mais dans tous les cas, son système d'idées deviendra plus logique, sa sensibilité plus profonde, et son être plus uni. Il deviendra plus admirable de moralité et d'obéissance aux lois. Au contraire, celui qui est entravé par des prescriptions de toutes sortes admettra, en dépit d'elles, des croyances religieuses diverses, ou bien il n'en admettra point. Mais, dans tous les cas, il aura moins de logique dans les idées, moins de profondeur de sentiments, moins d'unité en son être, et, par suite, il honorera moins la morale, il voudra plus souvent esquiver la loi. Sans ajouter d'autres raisons, je crois pouvoir poser maintenant ce principe, qui n'est pas nouveau, à savoir, que tout, ce qui se rapporte à la religion, est en dehors des bornes de l'action de l'État. Que la prédication, et tout le culte en général, doit échapper aux vues particulières de l'État, et être entièrement abandonné à l'administration des communs. C'était de la religion. Fin du chapitre 7.